Donc, on va faire un cours maintenant sur Arba Kaminim. Arba Kaminim, c'est les quatre espèces de la Torah, ou le Kartel Lachem Beyom Arishon. Vous prenez le premier jour, c'est le premier jour de Sukkot, Pelet Hadar, le fruit de l'arbre Hadar qui habite, ou qui est beau, plusieurs traductions du mot Hadar, Etz, Pelet Hadar, Kapot Marim, c'est des branches de palmiers, Etz Avot, c'est du myrte, et Arbenachal, c'est du sol. Alors, le prix Etz Hadar, Chazal on dit c'est quoi? C'est le Etrog. Etrog, en français le cédra. Voici des variétés de Etrogim, de cédra. Voici le bout du palmier, c'est ça. C'est dans le tronc, t'as une continuation, c'est la nouvelle pousse, c'est ça. Ça s'appelle un loulav, etrog, loulav. Les myrtes, c'est branches de myrte, voici. On prendra trois branches de myrte. Et les aravotes, aravotes, c'est le son. J'empêche, parce que je dirai les noms dorénavant en hébreu. Etrog, c'est le cédra. Loulav, c'est le palmier. Arava, c'est les deux branches de sol. Et le myrte, c'est le hadas. Chazal a dit d'ailleurs que c'est après Kippour, maintenant, on est censé être pur, purifié, et d'après la sorte d'espèce que nous prenons ici, on voit comment on a bien corrigé nos différents organes. Ça, c'est le cœur. Ça correspond à la colonne vertébrale, mais aussi à la brit mila. Ça correspond aux lèvres, comme les lèvres. Ça correspond aux yeux. Plus profondément, on aura ici sept sortes par rapport aux sept conduites, voies de conduite que Dieu utilise dans le monde, qu'on dit tous les matins, Lecha Hashem Hagdula, Vagvura, Hagdula, c'est Chesed, ce sera Gdula, Gvura, Vitif Eret, les trois Adassim, qui correspondent à Abraham, Isaac et Yaakov. Après, Netzar Vehod, c'est Moshe et Aaron, c'est les deux branches de Arava. Ça, c'est Yosef, par rapport à Yosef Hatzadik, c'est le Yesod, celui qui a bien protégé sa brit mila. Et enfin, la malachie, la royauté, c'est le cœur, le chamamlacha, Dieu à toi, et la malachie, la royauté, le cœur, c'est David Amelach. Aaron, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Correspondent aux sept jours aussi de Sukkot. Chaque jour, on a un nouvel invité qui vient dans cet ordre-là. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David. David, Soshana, Rabba. C'est la malchus, c'est la royauté. C'est pas mon sujet. Je devrais faire, et je le ferai à l'occasion, peut-être l'année prochaine. Cette année, ici en Israël, le premier jour, on ne prend pas les quatre espèces. C'est Mouktsé. Et Chazal a eu peur qu'on prenne le loulav et qu'on le transporte à l'extérieur, dans le domaine public. Alors, ils ont décrété qu'on annulait cette mitzvah le jour du Shabbat. Mais c'est une mitzvah de la Torah, de Horaïta, Shabbat, on ne pourra pas la faire. Donc les six autres jours qu'il y a, c'est une mitzvah d'Erabanan, c'est un décret qu'a fait Rabbi Yochanan ben Zakkai, parce que le temple a été détruit, il a décrété, à l'époque on faisait sept jours dans le Beth Amikdash, et un jour hors du Beth Amikdash. Rabbi Yochanan ben Zakkai a décrété que depuis le temple est détruit, on ferait un jour, comme toujours, hors du Beth Amikdash, hors du temple, mais on fera encore six jours supplémentaires à l'extérieur. Vu qu'ils sont que des Rabanan, les lois qui concernent la cacheroute, parce que pas n'importe quel fruit de ces fruits-là, de ces espèces-là, il est cacheur comme il est, il y a des lois très strictes, il faut qu'il soit beau. C'est important qu'il soit beau, beau d'après les critères que Chazal ont dit. Alors c'est principalement le premier jour. Les autres jours, ils peuvent être beaux aussi, mais moins. C'est moins grave parce que ce n'est pas de la Torah. Donc je ne ferai pas un cours aujourd'hui sur la cacheroute et les critères de beauté de ces espèces. Peut-être en passant, je dirais deux petits trois mots par-ci, par-là. Une chose moins importante, il faut que ce soit ces espèces-là. Je ne vais pas prendre la place d'un palmier et une branche de chêne. La place de ça, je prends maintenant, je ne sais pas moi, des lilas. Et là, je prends des tulipes. Et là, je prendrai un citron. À propos des hétrogues, je fais une petite parenthèse, parce qu'il y a un gros problème. Le hétrogue, c'est ce qui coûte le plus cher. Il y en a qui sont très très beaux, qui s'achètent des fois à des fortunes. On a les cas de 150 euros pour un citron, d'accord, qu'on ne mange même pas pour finir. C'est 150, 200 euros s'il est très très beau. Et il y a l'appât du gain. Maintenant, l'étrog, de façon naturelle, ça c'est un vrai étrog, vous voyez, d'origine yéménite, fournisseurs en Israël, les Sfaradim principalement achètent en Israël des etrogim de plants d'origine yéménite. Pourquoi? Parce qu'on a la présomption, on espère que ce sont vraiment des vrais etrogim. Il y a un problème. Les etrog, pour qu'ils soient beaux, d'habitude, ils poussent assez biscornus, facilement il y a des taches, facilement ils se gâtent. Alors, pour le renforcer, qu'il ait une forme qui soit plus vendable, plus facilement vendable, il y a des agriculteurs qui, sans foi ni loi, vont et font des greffes sur les etrogim. Ça date déjà au moins il y a 200 ans, ça a commencé, mais c'est un sport très courant encore aujourd'hui. Personne ne le voit. Une greffe, ça prend 2 secondes à faire. On coupe un peu d'une branche de etrog, on met à la place une petite branche de citronnier, par exemple, ou de poirier, qu'on attache ensemble, et tout à coup, les etrogim poussent beaucoup plus beaux. Alors, c'est très dur à repérer, presque impossible. Des fois, tu prends un etrog, il a une odeur de pomme ou de poirier, c'est-à-dire qu'il a, il a été greffé. Ou très souvent, si on le greffe avec du citron, un etrog normal, quand on l'ouvre dedans, il n'y a absolument pas de jus. Il n'y a que de la matière blanche. Que de la matière blanche. Ensuite, les graines aussi ne sont pas posées comme ça, comme dans un citron à l'horizontale. Elles sont verticales. Dans le etrog, elles se tiennent verticalement. Donc, ce sont certains signes. De même, on sait qu'ici, l'endroit de la branche, il est intérieur. Mais ce ne sont pas des signes qui sont des signes infaillibles. Ce ne sont pas des signes infaillibles. Nous, on compte sur une tradition qu'on sait que ces etrogim-là n'ont pas été greffés. Le problème, c'est que dans la tradition, il y a eu beaucoup d'erreurs aussi. Que beaucoup d'agriculteurs n'étaient pas du tout honnêtes, ont fait des greffes. Et on sait aujourd'hui que sur le marché, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'etrogim qui sont greffés. Je crois que nous conseillons. Les Sfaradim en Israël, d'habitude, achètent que des etrogim qui sont d'origine des plants yéménites ou marocains. En France, c'est plus les marocains. Marocains aussi ont appris un peu à faire cela. Les minutes aussi. Plus on sait que ce plan vient du Yémen, vraiment du Yémen, ça, là-bas, ils ne savent pas encore faire des greffes. Au Maroc, dans le fin fond sud du Maroc, ils n'ont pas encore appris. Mais la technologie avance chaque année et il y en a qui apprennent. Donc, on espère qu'on fait la bracha sur un vrai etrog. On essaie de faire de notre mieux. Aujourd'hui, il y a des etrogim qui ont des hercherim, qui ont des tampons cachers de rabbanim très sérieux, qui vont rechercher sur place, voir effectivement qu'on peut être certain que le etrog vient d'une source non greffée. Faites attention. Ils peuvent être très très beaux, mais c'est des beaux citrons. Ok. Le loulav aussi. Le loulav, communément, que nous avons, ce type de loulav. Faut faire attention. Des fois, il y a un loulav, et j'en ai vu de temps en temps dans le marché, qui s'appelle le loulav canari. Canari, il est un peu bleuté. Les branches sont beaucoup plus petites que cela. Il est très droit comme ça, mais aussi, il se gondole un peu. C'est pas valable. C'est l'espèce de palmier des Canaries, des îles Canaries, d'accord, n'est pas valable. Faire attention de ne pas se faire avoir, parce qu'on a l'impression qu'on a un super loulav, et c'est pas un loulav. Un loulav, c'est un palmier du type qui est ici au Moyen-Orient, et non aux îles Canaries. Mon cher Rabbeinu n'a pas été, à ce que nous sachions, aux îles Canaries. Le sol, c'est le voici, pas forcément qu'il pousse près des rivières, mais il pousse aussi très souvent près des rivières. C'est bien qu'il ait la branche rouge, c'est pas obligatoire. Et voilà, quoi faire attention, ce sont bon, les feuilles de sol, c'est connu, pas le sol pleureur qui retombe comme ça, un sol qui se tient, une branche de sol qui se tient. Oui.
Si les feuilles sèchent pendant les 7 jours, c'est...
Alors, si ça sèche, il y a un problème. C'est quoi sécher? Si ça change de couleur, ça blanchit ou même ça noircit, il y a un problème. De toute façon, quand c'est sec, c'est pas du hadar, c'est pas bien. Mais il y a une quantité à quel point ça sèche, d'accord? Si ça sèche, à un point que ça change vraiment de couleur, ça blanchit, là il y a un problème. Si simplement ça sèche, ça devient sec, mais ça reste vert, c'est cachère encore. Mais c'est bien, c'est possible, surtout, ce qui sèche le plus rapidement possible, le plus rapidement, c'est le sol. Le sol, c'est ce qui coûte le moins cher. D'accord? Ça se vend moins de 1 euro ici en Israël, deux branches de sol. En plus, tu peux aller en chercher par-ci, par-là. C'était en France, aucun problème. Ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Pour finir ici, les hadassim, faire attention, je vais faire le cours maintenant, mais un hadass n'est cachère que s'il a la majorité de sa longueur. Sa longueur, ça va être 30 cm, 21 cm pour être précis. La majorité de la longueur, on a les feuilles sont en groupe de 3, mais sortent vraiment du même endroit. On pourrait autoriser un demi-millimètre d'inexactitude, d'accord? Enfin, il faut que lorsque j'ai une branche qui sort la tige de feuille, la feuille à côté doit sortir la tige du même endroit ou décaler un peu de façon à ce qu'il y ait toujours une partie qui soit commune dans l'endroit de la tige, dans l'épaisseur de la tige. Donc, j'ai un millimètre environ l'épaisseur d'une tige de Hadas, de Myrte, faire attention qu'il y ait une majorité, si possible tout, de feuilles qui sortent du même endroit. Ce sont des groupes de 3 feuilles qui sortent. Voilà. Le cours qu'on fera aujourd'hui, ce n'est pas sur la cache-route, donc ça en fera un cours à l'occasion l'année prochaine avec l'aide de Dieu. C'est comment attacher les 3 espèces ensemble. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses un peu tordues, et c'est dommage. Ils achètent un très beau étroc qui vaut 150 euros, mais il ne faut pas la mettre comme il faut. Et aussi après, comment on fera la bracha, comment on prend cela, et comment on fait ce qu'on appelle les ninouim, les agitements, les balancements des 4 espèces, des arbata minim. Bon. Alors je vais demander à Noam de prendre la caméra et de venir ici, peut-être prendre une vue plongeante, comme ça sera plus simple. Alors comment est-ce qu'on fait pour attacher?
Je coupe.
Alors, il y a une mitzvah d'attacher, c'est igoud, d'attacher ensemble les 4 espèces. C'est quoi 4 espèces? En fait, on va attacher 3 espèces. La quatrième est séparée sur les trocs, mais lorsqu'on va les balancer, faire l'inouïm, on devra les grouper ensemble. Donc on va attacher d'abord les 3 espèces ensemble. On prend le loulav, on mettra à droite les hadassim et à gauche les aravot. On va les attacher ensemble. Alors comment les attacher? Du point de vue de la loi stricte, on peut attacher avec n'importe quoi, mais la coutume est d'utiliser des branches du loulav lui-même. On peut prendre n'importe quel loulav, mais une fois que le loulav lui-même a déjà été utilisé pour la mitzvah, donc après le premier jour, et je veux maintenant détacher et réattacher, je pourrais prendre des branches de ce loulav que pour ce loulav. Je ne vais pas prendre des branches de ce loulav pour un autre loulav. Il y en a qui disent que oui. Pourquoi? Parce qu'on considère que la mitzvah a été faite avec la longueur nécessaire pour faire la mitzvah. C'est quoi la longueur du loulav? La longueur, c'est 4 tfachim, 4 tfachim, 4 points. On va dire qu'un point fait 10 cm, c'est 40 cm. Depuis où on compte la longueur du loulav? On ne compte pas depuis le bas jusque le haut, ni depuis le haut jusque le bas 40 cm. On va compter depuis la fin de la colonne. Parce que comment? On a ici un tronc. Je ne sais pas que tu vois ici, Noam. On a ici un tronc. D'où sortent les branches? On voit très bien. Voici, il y a un tronc ici. D'où sortent les branches? D'où sortent les branches? D'où sortent les branches? On avance comme ça. D'où sortent les branches? Et au bout d'un moment, on arrive à la fin du tronc. Et la dernière branche qui sort, c'est ici. Ces branches-là, on voit, ce sont les dernières qui arrivent jusqu'en haut. Là, s'arrête le loulav. Ça, il faut qu'on ait une longueur de 40 cm. Mais chaque attraque en 4 forces majeures, on pourra compter un point 8 cm, ça nous fera 4 fois 8, combien ça nous fera 32 cm. Mais a priori, on va comme Chassodich, parce que c'est ça de la Torah, on veut 40 cm, c'est pas difficile de prendre un loulav qui fait 40 cm. Donc, de là à là. Plus court, c'est pas valable. Donc faire attention, il y en a qui aiment bien avoir un loulav court, pas trop court non plus. Vu que la longueur de la mitzvah, en fait, c'est ça, et que le bas, la partie plus basse ici, n'est pas la mitzvah en elle-même. Il y en a qui disent que si tu prends des branches de cette partie qui est en bas, il n'y a pas de problème. Même après que tu as fait la mitzvah avec le loulav, tu prends des branches pour un autre loulav, ça va. Mais a priori, si on peut s'arranger de toujours prendre des branches de loulav pour notre loulav et pas pour un autre, c'est mieux. Alors on prend une branche de loulav, regardez comment je fais. Hop, tout simplement avec la force du poignet, je détache cette branche. Cette branche, comme toutes les branches de loulav, elle s'ouvre en deux. Et voilà. Et je déchire. Je peux déjà attacher avec ça, mais quand on attache avec des bandes qui sont trop grosses, au bout d'un moment elles sèchent, elles craquent. Alors c'est beaucoup plus simple je vais prendre cette bande-là et je vais la couper en petites bandes de, on va dire, en demi centimètre ou 3 mm. Voilà, 1, 2, 3, ok, etc. Ça va être mes outils de travail. Maintenant, je mets le loulav face à moi. C'est quoi face? C'est la colonne vertébrale vers moi, et pas à l'envers. Colonne vertébrale vers moi. Je prends les 3 hadassim, je les mets ici, vers le bas, de façon à ce que je vais prendre, l'essentiel c'est faire la mitzvah, après quand je vais prendre ensemble les 3 pour faire la mitzvah, il faut que je prenne les 3 dans ma main. C'est pas obligatoire, il y en a qui disent qu'ils sont attachés, même si tu prends le loulav tout seul, et plus haut sont attachés, ça va. Mais la coutume, et comme je suis en train de dire maintenant, le mieux, c'est que tu prennes les 3 ensemble. Donc tu mets ton loulav, tu prends 3 hadassim que tu mets là, et c'est bien que le loulav dépasse quand même un peu en bas. Il dépasse un peu en bas. Les 3 hadassim à droite, les 2 aravot à gauche. Je prends maintenant mon fil que je vais passer dessous. Comme cela. Et doucement, je fais un double nœud. Donc fais attention, si possible, de ne pas casser casser des feuilles. Voilà, je fais attention que ça ne casse pas trop. Je sors les feuilles d'entre les... comme ça, que ça prenne juste les branches. Et voilà, un nœud. Un deuxième. Et voilà, ça c'est l'essentiel. Du point de vue de la loi stricte, un nœud suffit. La coutume, on va faire trois nœuds. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais si on a un nœud, c'est valable. On n'a pas le droit de faire ce nœud-là pendant la fête de Yom Tov. Si quelqu'un a Yom Tov, il a oublié. Cette année, on n'a pas Yom Tov. Mais si, parce que ça tombe Shabbat, donc il n'y a pas la mitzvah de Lulav. Mais si ça tombe à Yom Tov qui n'est pas Shabbat, alors on va dire que le jour de Sukkot commence jeudi. Jeudi, c'est Yom Tov. Alors quelqu'un a oublié de faire ça avant Yom Tov, il ne peut pas faire un double nœud pendant Yom Tov. Il entourera et fera rentrer le bout dans... Il entoure, après il met le bout dans le tour fait avec les... avec ce fil-là. Bon, c'est pas très beau qu'on a maintenant les fils ici qui se baladent, alors on prend un ciseau et on coupe. Et voilà, il coupe pas d'ailleurs. Et voilà. Regardez. Pas compliqué, n'est-ce pas? J'ai fait plusieurs années d'études en fac pour arriver à ça. Ensuite, on fera un deuxième qu'on mettra là. Pourquoi? Parce qu'on veut pas que les Hadassim et les Aravot s'épartent. On veut qu'elles soient attachées proches du Lulav. Donc on va prendre de nouveau à cette hauteur environ. Et de nouveau, même opération. J'enlève un peu les feuilles. C'est plus joli.
C'est préférable ça que les supports en palmier qui vendent séparément.
Alors, très, très bonne question. Les supports en palmier, c'est le coutume de nos frères Ashkenaz. Nous ne faisons pas cela. Nous, on fait cela. Et eux aussi, quand ils mettent le panier, ils doivent faire attention d'attacher. En plus du panier, c'est bien d'attacher. Ouais. Maintenant, nous déconseillons les paniers parce que nous, on fait notre coutume. Comme ça, on a reçu. Comme ça font les Sfaradim, en tout cas dans ce pays, depuis des siècles. La coutume ici, en Israël.
Il y a besoin que ce soit un fil naturel, parce que souvent, je mets des fils de couleur, des fils brillants.
On peut le faire. La coutume est de faire ainsi. D'accord? Quelqu'un veut après faire avec un fil d'or, ou comme il veut, c'est permis. Troisième.
Faire le fil autour, là.
Ouais.
Faire le aiguille avec...
Ouais, ouais, on peut.
Un ruban de papier cadeau, ouais, c'est tout un peu.
Ouais. On peut le faire. Mais, à mon avis, c'est beaucoup plus joli avec ça. C'est plus écologique. Ça s'appelle Rabbi Yehuda, ce côté, la lachette pas comme Rabbi Yehuda. Et voilà, trois. Vous voyez que je n'ai pas trop serré pour pas complètement asphyxier les branches. Et voilà.
Est-ce que vous m'en prenez moi de recueillir des branches d'or?
Oui, ça vaut la peine, vu que la ravote. Maintenant. J'oublie de dire une chose importante. Regardez comment j'ai fait ça. C'est important parce que c'est une erreur qui arrive très souvent. Il est bien que l'Hadassim soit plus haut que les Aravot. Alors, est-ce que c'est le cas ici? Non. Vous voyez, j'aurais dû baisser un peu plus la Arava. On va la baisser. Je baisse un peu la Arava. J'aurais dû le faire avant de faire les nœuds, c'est plus pratique. Voilà, et je coupe en bas la ravotte. Non, c'est bon, il faut 30 cm. Alors, la rava et la hadassim doivent faire 30 cm. D'accord? On mettra le hadass, comme vous voyez, il est plus haut que la ravotte. Et très important, que le loulav, le tronc du loulav, arrive au moins un point, donc 10 cm plus haut que le hadass. Est-ce que c'est le cas ici? Le hadass, il s'arrête ici, et là, tout juste. Ça m'aime bien de baisser un peu. Voilà, comme cela. D'accord? Des fois, on verra des gens qui ont un louave qui est petit, un hadas qui est très long, et le hadas, il arrive plus... Il rentre dans les derniers 10 cm du louave. C'est pas bien. Il faut qu'on ait 10 cm depuis la fin du tronc. Plus bas, tu comptes 10 cm. Ces 10 cm doivent être libres. Le louave doit être plus haut. Il fait 40 cm. C'est ça la mitzvah? Le hadas, la ravotte font 30 cm, donc il faut qu'on ait 10 cm du loulav qui dépasse au-dessus des hadas et la rava. Loulav est le plus haut, pour ça qu'on fait la bracha sur lui, à Netilat Loulav, alors qu'en fait, Netilat c'est prendre, on prend les quatre espèces pour qu'on fait sur Loulav, c'est le plus beau, c'est celui qui sort le plus haut, celui qui est plus mis en relief, donc on doit le mettre en relief, il doit sortir. C'est lui la mitzvah, c'est ça la mitzvah, cette partie-là, de la fin du tronc, est 10 cm plus bas. Ensuite. Pardon ?
Où est-ce qu'il commence le tronc à partir du bas ?
Pourquoi ?
Le tronc du Loulav, à partir d'où il commence en bas ?
40 cm plus bas que le sommet.
Ah, mais je veux dire ici.
Là.
Ici, c'est...
Tu comptes 40. Ici, ça commence ici.
Et en, de là. Ce qui est en dessous, ça compte pas ?
Ça compte pas pour la mitzvah. Faire attention, il y en a qui mettent, et c'est bien, de mettre le Loulav dans un verre d'eau, comme ça, avec les espèces, etc. Il le pose comme ça dans un verre d'eau. Faire attention de ne pas laisser pendant 24 heures ou plus les espèces dans de l'eau. Parce que d'après la loi, une chose qui est restée dans de l'eau froide pendant 24 heures, elle est marinée, elle a un statut de cuit. C'est comme si c'est cuit. Quelqu'un prend par exemple de la viande, il met dans du lait, et il laisse pendant 24 heures, cette viande est interdite. Si c'était moins de 24 heures, il peut la rincer très bien, il rince très bien sa viande du lait, et elle est consommable. Je ne vais pas dire à chacun d'aller faire mariner maintenant sa viande dans le lait, c'est pas, mais si c'est arrivé par erreur, qu'il y avait de la viande qui tombait dans du lait, c'est moins de 24 heures, si on peut bien nettoyer cette viande du lait, elle est permise. Mais s'il y a 24 heures qui sont passées, c'est considéré comme si c'était cuit ensemble, c'est terminé. Or, on peut faire la mitzvah des quatre espèces avec des espèces qui sont cuites. Il faut faire attention de ne pas laisser, ça arrive quand Shabbat, quelqu'un avant Shabbat, il pose vendredi après-midi à 5 heures, il pose ces quatre espèces dans le verre d'eau, il revient le prendre Motsé Shabbat, c'est déjà... samedi soir, c'est 9 heures du soir, sont passés plus de 24 heures, et c'est terminé. Si jamais c'est arrivé, alors la partie basse dans laquelle a été trempée, qui était dans le verre, qui ne tienne pas là-bas le loulav, qui tienne plus haut, qui tienne là, et pas là. D'après la mystique juive, on ne fait pas ainsi on met pas les trois hadassim à droite et les aravot à gauche, on les met de façon, comme elles sont installées au niveau de la représentation des sphères dans le ciel, tu auras à droite un Hadas, Abraham, à gauche un autre Hadas, c'est Yitzhak, au centre le Yaakov, sur le Loulav, ici le troisième Hadas, ensuite entre les Hadassim, tu mets Moshe et Aaron, les Aravot, et tu attaches tout cela ensemble. Vous verrez des gens qui font ainsi, c'est d'après la mystique juive. Aussi, il y en a qui mettent quelques bagues comme ça, faites avec des nœuds des morceaux de palmier comme ça, ils mettent des bagues sur le loulav. C'est bien, il n'y a aucun problème. D'après la mystique juive, c'est bien d'en mettre 18 par rapport aux 18 vertèbres qu'on a dans la colonne vertébrale. Personnellement, quand j'ai le temps de le faire, je le fais. C'est joli comme ça, tu vas comme ça 18 petits nœuds. Et on les fait monter jusque là-haut, il n'y a pas de problème. Nos frères Ashkenaz, non. Pourquoi ? Parce que eux, quand ils font le linouim, qu'on appelle cela, l'agitation du loulav, ils veulent le faire sonner comme ça. Nous pas. Nous, on le prend, on le fait venir, sans le faire sonner. Alors, si tu attaches, il ne sonne plus. Nous, on attache sans aucun problème, et on peut attacher jusque où on veut, avec les 18, ça fait un très très beau loulav.
Les trois du bas, ils comptent pour les 18 ?
Alors, il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Donc, tu peux faire comme ci, tu peux faire comme ci, comme ça. Maintenant, on va demander à Noam de reprendre sa place. Et maintenant qu'on a donc préparé nos quatre espèces, on va passer à l'action. Comment elle a lieu ? Le premier jour de Sukkot, ou le deuxième jour cette année, vu que le premier on ne peut pas faire la mitzvah, la première fois on va prendre les quatre espèces, on fera deux brachot. Baruch atah Hashem, Elokeinu Melech haolam, Asher Kedeshanu, Bemitzvah Betzivanu, Al Netilat Lulav, et après, Shehiyanu. Les autres jours, on fera qu'une bracha, Al Netilat Lulav, et pas Shehiyanu. Il est bien de faire la première fois de la journée dans la Sukkah. Avant la prière, si quelqu'un a pris... Pas au net, on peut pas prendre les quatre espèces avant le net. Le net, c'est avant le lever du jour. Donc si quelqu'un va prier avant le lever du jour, alors il fera les quatre espèces dans la synagogue, ou s'il y a une soukha dans la synagogue, il fera ça dans la soukha. Mais c'est bien d'après Rabbi Noari, d'après la Kabbalah, de faire la mitzvah de Ninouim, des balances, de prendre le loulav dans la soukha elle-même. Sinon, alors on peut le forcer à la synagogue. Alors on prendra nos quatre espèces, on tâchera de ne pas les toucher ensemble, avant de faire la bracha. Parce que la bracha, c'est al netilat lulav, c'est de prendre. Une fois que j'ai pris, donc quelque part, j'ai fait la mitzvah. Donc c'est un problème. Si jamais ça arrivait, tant que tu n'as pas pensé faire la mitzvah, et tant que tu n'as pas fini les balancements, alors tu pourras faire la bracha. Mais a priori, c'est bien de faire attention de ne pas prendre les quatre ensemble. Alors, on prendra d'abord le loulav, avec face la colonne vertébrale du loulav vers nous, donc le tronc du loulav vers nous, comme ça, dans la partie basse. Ok? Après, on fait la bracha. Baruch atah Hashem Elokeinu Melech Haolam, Asher Kedesha Lanu Be'Yom Mitzvah Vetzivanu, Al Netilat Lulav. Et on prend le etrog. Et on le touche, on fait, il faut que les quatre soient ensemble.
Dans ce sens,
le etrog. Pas dans le sens, pas à l'envers, mais comme ça. Il y a deux autres façons de faire aussi, qui sont de prendre directement les quatre ensemble, mais en prenant à l'envers. Comme ça, la mitzvah n'est pas faite. Je prends le etrog à l'envers. Je fais la bracha à chaque des chalmes, à l'esglat loulav, et je mets à l'endroit. Troisième façon de faire, je pense ne pas faire la mitzvah. Rabbi Yosef Karo n'a pas ramené cette façon de faire, bien que lui-même amène un autre endroit, mais dans Jouranor, il n'a pas écrit, parce qu'il dit les gens ne sont pas clairs dans leur pensée. Il ne sait pas c'est quoi très bien penser de ne pas faire la mitzvah. Mais si quelqu'un il est clair dans sa pensée, il dit maintenant, je pense ne pas faire la mitzvah. S'il ne pense rien, ça se peut que la mitzvah elle est faite. Mais s'il pense, une pensée négative, je pense ne pas faire la mitzvah, alors il ne la fait pas. Quelqu'un qui pense maintenant, je prends le hétrog, ou là, tout ça, et je pense ne pas faire la mitzvah, et ça n'a pas fait malgré lui. Donc je pense ne pas faire la mitzvah. Je prends les quatre ensemble, je ne fais pas la mitzvah, je ne fais pas la mitzvah, je ne fais pas la mitzvah, je pense ensemble, je ne fais pas la mitzvah, je fais la bracha, baruch atah Hashem Elokeinu Melech Haolam, Asher Kedesha Lanu Be'Yom Mitzvah Vetzivanu, je pense à la mitzvah. Ça va, c'est valable aussi comme ça. Le Gaon de Vilna recommande de faire cette troisième façon. Mais Rabbi Yosef Karo ne l'a pas mise parce qu'il dit il y a un problème avec la pensée. Nous, notre coutume, c'est comme j'ai fait de la première façon, on fait sur les trois. Après, on prend le quatrième, et comme ça. Ok ? Tout ce qu'il y a à dire là-dessus ? Oui.
Les frogs sont collés à la rava ?
Collés à la rava. Collés, il faut que ça touche. Il faut que l'étrog touche le groupe des trois espèces ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire ce qu'on appelle les ninouïn, donc les balancements. Les balancements, d'après la Ben Ouari, d'après la Kabbalah, et comme ça, le Minhag des Sfaradim, en tout cas en Israël, c'est comme ça qu'il faut faire, le mieux, c'est faire ainsi. On fera cinq fois ces types de balancement. Une fois, la première fois, quand on fait la bracha, et quatre fois dans le halel. Après qu'on a fini shachrit de Sukkot, on fait le halel, et quatre fois durant le halel, on va expliquer quand et comment, on fera les balancements. Donc cinq en tout. Alors, tous les balancements se font ainsi. On se tourne d'abord côté sud. Sud, chez nous, c'est là. D'accord ? Et on prend les quatre espèces comme ça, près de la poitrine, et on tend les bras, et on ramène. Une fois, deux fois, trois fois. Après, en se tournant toujours avec du côté droit, tous les tours que nous faisons, on le fait par la droite. Je me tourne vers la droite, je fais un demi-tour, j'arrive, je vois maintenant le côté nord. Un, deux, trois. Il y a des très grandes pensées mystiques à ce moment-là, que je ne connais pas. Les pensées simples sont, on repousse les mauvais vents et on repousse le Yetzara, toutes les forces maléfiques qui veulent nous envahir, on le repousse comme cela. Alors on a fait déjà le sud et le nord. Après on passe côté est. 1, 2, 3. Après en haut, attention les bluffs qui sont grands, ne pas cogner dans le plafond. 1, 2, 3. Notre coutume maintenant, c'est faire vers le bas et pas comme ça, comme les gens qui font. On ne fait pas ainsi. On baisse comme ça et on revient. 1, 2, 3. Et enfin, toujours en tournant par la droite, on va côté ouest. 1, 2, 3. Et voilà. Là, on fait la mitzvah. Tant qu'on n'a pas fini ces six balancements, six côtés par rapport aux six voies de conduite de Dieu aussi, ça correspond aux six voies de la Tiferet qui a six côtés, c'est pas qu'on a fait la bracha, on peut toujours faire encore la bracha tant qu'on n'a pas fait ces balancements. D'accord ? Maintenant, dans l'Halel, comment on fait ? Alors, il y aura deux versets dans lesquels on fait les balancements. Hodou Lachem Kitov, Kiram Chasdo, j'en profite maintenant si je rappelle ce verset-là, beaucoup de gens ne savent pas dire le mot Chasdo, ils disent Chasdo. En français, c'est H, ha, d'accord, H apostrophe, apostrophe H, A-S-D-O, et pas Z-D-O. Il y a une tendance à dire Hasdo. Hasdo, ce n'est pas de l'hébreu. Hasdo. D'accord ? Alors on dit comme ça. Hodou. Lachem. Quand on dit le nom de Dieu, on ne fait aucun balancement. Hodou Lachem. Qui. Tov. לעולם חסדו. Et je reviens, position initiale. On fait cela, c'est le premier verset dans lequel on fait cela dans le Hallel. Après, on dit deux fois Anna Adonai Hoshiana. Anna Hashem Hoshiana. Alors comment on fait? Le mot Anna, c'est un seul mot, on va séparer en deux. Il ne faut pas séparer, il faut prendre un long souffle et faire. Anna Hashem. Hashem, on ne bouge pas. Hoshi'ana. Maintenant, j'ai fini ici. Je dois arriver côté sud. Alors, je peux revenir comme ça. C'est faux. Je vais tourner par la droite, donc je fais le trois quarts de tour. Je tourne comme ça et je recommence. Ana Hashem. Après, on finit à la fin du Hallel, le dernier verset du Hallel, c'est de nouveau Hodou Lachem Kitov Kem Chasdo, qu'on répète deux fois. La première fois qu'on le dit, on refait Hodou, etc., comme j'ai fait auparavant. Vous voulez que je le refasse encore ou c'est clair? Vous le refaites, c'est pas possible. Hein, c'est bon? Ok, voilà. Des questions encore? On a tout dit? Il n'y a pas que j'ai oublié?
Quand on fait dans la souka le matin, alors il faut faire après les brachot ha-shachar, non?
C'est pas obligatoire, mais c'est mieux de faire d'abord Birkat ha-shachar et après tu t'occupes de ça. Ouais. Tu vas rappeler des versets, donc il faut faire au moins Birkat ha-Torah.
Il faut faire la bracha avant de le faire.
Quelle bracha?
Anetet lulav.
Oui, bien sûr.
Et à la shul, au Bet HaKnesset, ensuite on ne refera pas avant le halal.
Voilà. Si quelqu'un a fait dans la souka déjà Anetet lulav, on fait une fois par jour cette bracha. On ne fait pas deux fois. Quelqu'un met les tefillines plusieurs fois par jour, chaque fois qu'il met les tefillines, il refait la bracha. Une salle de lulav, c'est une fois par jour. Une fois que tu l'as fait, c'est terminé. D'accord? Les femmes, nous, Mingal Sfaradim, que les femmes ne font pas la bracha là-dessus. C'est une erreur. En tout cas, la coutume est comme cela. Vu que les femmes, c'est une mitzvah dont les femmes sont désengagées, vu que c'est une mitzvah positive qui est gérée par le temps, les femmes sont désengagées de l'obligation de le faire, sont dispensées. Si elles veulent le faire, elles peuvent le faire, elles ont un mérite là-dessus, mais ne font pas la bracha. Achat Sivan, que Dieu nous a ordonné, t'as pas ordonné. T'as permis de faire, t'as pas ordonné. Donc les femmes ne font pas cette bracha. Ok, alors qu'on a une fête de Sukkot heureuse, sachez que c'est une très grande mitzvah qui correspond. Ces quatre lettres correspondent aux quatre lettres du nom de Dieu, sont des choses qui sont très très hautes, et en faisant cela, ça mène beaucoup de bracha sur le monde entier. Baruch Adonai, l'homme de la mer.